France Inter. France Inter, la Terre au carré.
Et c'est l'heure de votre lutte enchantée, Camille Cronier.
Et ne voyons pas le mal partout. Dubaï aussi lutte contre le changement climatique. La COP28, il y a 2 ans, c'était la méga vitrine internationale. Et ne me parlez pas du résultat, hein. C'est pas ce qui compte dans notre monde, espèce de rabat-joie. Mais la ville émirat fait aussi des actions au niveau local. Elle lutte pour développer les mobilités douces. Et oui, vélo et marche à pied. Alors ça, c'est la musique de la vidéo sortie le mois dernier, vidéo du projet Dubai Walk, promenons-nous à Dubaï, validée officiellement au même moment par le cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum. Vidéo qui en fait des tonnes, hein, comme souvent dans ce genre de truc, avec des images de synthèse et des paysages qui te feraient croire que t'es dans Avatar, tellement c'est beau et parfait et paradisiaque avant le cataclysme. Des arbres super verts, de l'eau turquoise, des gens contents et des plans interactifs pour comprendre le projet assez costaud, faut le dire. 6500 km de voies piétonnes, oui, 6500 km, ça paraît fou quand par exemple le GR5 entre Rotterdam et Nice fait 2600 km, donc moins de la moitié. Mais voir grand, c'est un mantra à Dubaï, n'est-ce pas? Ce réseau piéton qui connectera plusieurs lieux dits d'intérêt traversera 160 zones à travers l'Émirat, il y a de quoi faire, avec des portions sur le front de mer, d'autres en pleine ville, d'autres encore, annoncent-ils, en zone rurale et montagnard. Alors je ne savais pas qu'il y avait des montagnes en plus du désert. Alors techniquement, voilà le plan. D'ici 2040, donc vraiment dans pas super longtemps, ils annoncent réhabiliter 2300 km de voies déjà existantes, construire 3300 km en plus, puis construire encore 900 autres kilomètres après. Et n'imaginez pas de pauvres trottoirs, non, oh, c'est Dubaï. Ces sentiers, promenades, passages, je ne sais même pas comment les appeler, seront connectés. On produira de l'électricité en marchant sur des pavés cinétiques. Il y aura des arbres tout verts donc, des GPS intégrés, des œuvres d'art, des équipements sportifs, des terrasses ou d'autres endroits ombragés pour se poser et des parties climatisé, eh ben ouais.
L'écologie,
vas-y, marcher sous 50 degrés, ils sont pas fous, hein. Alors, on sait pas encore combien de kilomètres seront équipés avec la clim, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour le vélo, l'autre projet qui s'appelle le Future Loop, donc c'est une sorte de tunnel tout vitré en hauteur, au-dessus de la ville, toujours en construction, avec des pistes cyclables, donc sera climatisé, lui, tout au long de ces 2 kilomètres, comme les déjà existants métros, ou alors j'ai appris qu'il y a une première classe quand même, tramway, arrêt de bus ou passage piéton couvert. Alors, le chèque. Voilà, le cheikh dont vous entendez la voix en anglais a dit via un communiqué, je le cite, que Dubaï était la ville du futur engagée à créer un environnement urbain sain et joyeux et veut faire de Dubaï l'une des villes les plus saines et durables au monde. Avec là pour objectif de passer les piétons de 13 à 25% d'ici 2040.
Ça va changer des SUV, hein.
On n'est pas sûr. Attendez la suite. Et ils veulent mettre la 80% de la population qui passera bientôt de 3 à 6 millions d'habitants, donc ça va quasi doubler, à 20 minutes maximum des services essentiels via des mobilités donc douces ou durables. Et ça tranche, Mathieu, dans la ville des autoroutes 12 voies pour de vrai, où non seulement on aime la bagnole là aussi, mais la bagnole spacieuse avec un gros moteur, c'est ce qu'a dit le responsable de BMW Moyen-Orient. Alors qu'il se rassure, parce que quelques jours avant le plan piéton, le cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum a aussi validé la construction de 643 km de nouvelles routes d'ici cette fois 2029, pour 1 milliard d'euros, et aussi refaire une route, alors là c'est sur 6 km, je pense que les défenseurs de la 69 vont bien rigoler, une route sur 6 km pour en augmenter la capacité de 30%, donc de passer de 9 000 à 12 000 véhicules par heure, pour que les gens puissent mettre 3 minutes plutôt que 8 minutes sur le temps de trajet. Je vous passe le projet de construction de 70 km de mangroves, présenté comme le plus grand projet de régénération côtière au monde, après les îles et les récifs naturels. Je vous le dis, hein, à Dubaï on voit grand, ou peut-être qu'en fait qu'on voit plutôt rien, je sais pas.
Notre invité est consterné, Alessandro Sandiani, il est sous la table, il vous écoutait. Merci beaucoup Camille Cronier, on se retrouve lundi prochain. Hervé Poirier pour le magazine Epsilon, vous nous partagez une drôle de révélation botanique. Hervé, les plantes boivent aussi par les feuilles, pas seulement par les racines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bon, il n'y a qu'une poignée de chercheurs dans le monde qui s'intéressent à ce phénomène, qui n'est pourtant pas marginal et quasi universel. C'est un changement de paradigme selon Marilyn Ball à l'Université nationale d'Australie qui a spécifiquement révélé l'importance des averses pour la survie des mangroves. Un phénomène bien plus répandu que ce que nous pensions, abonde Todd Donson à l'Université de Berkeley qui lui a regardé les cimes des séquoias du Pacifique s'abreuver des nuages de brume. Donc oui, Les plantes boivent aussi par les feuilles. Ces dernières années, cela a été observé pour 230 espèces, du poirier aux orchidées en passant par le pin ou la lavande. Plus de 85% des plantes chez lesquelles le phénomène a été étudié s'en sont montrées capables. Ça la monte à 95% pour les arbres.
Et ça, on ne l'avait pas remarqué avant ?
Bah non. Alors, hydrater ces plantes d'intérieur en les aspergeant était une croyance populaire. Bon, qui était juste en l'occurrence. Mais la science, elle a longtemps totalement ignoré le phénomène ou l'a considéré comme vraiment, vraiment insignifiant. Bon, il faut dire, à leur décharge, qu'il est très, très difficile de suivre et de quantifier le cheminement de l'eau dans les plantes. La cuticule, un peu cireuse à la surface des feuilles, s'est révélée en fait pas totalement imperméable. L'eau semble pouvoir s'immiscer via les stomates, ces minuscules trous par où le CO2 pénètre pour la photosynthèse, ou à la base des poils, sur les feuilles. Mais c'est pas encore clair. Sauf que, à l'aide d'isotopes, quelques équipes assez rares ont réussi à démontrer que cette eau qui entre par les feuilles, elle fait plus que l'hydrater. Elle participe à la photosynthèse, se retrouve incorporée à la sève, repart vers les racines pour nourrir toute la plante et la faire grandir. En particulier chez les grands arbres, où l'eau a plus de mal à remonter vers le cime, et selon Todd Danson, ce mécanisme aurait contribué au gigantisme des séquoias.
Donc ça a une réelle ampleur hein.
Alors, en analysant par satellite 20 ans de variations quotidiennes du couvert végétal, des biophysiciens de la NASA viennent d'établir que la croissance des écosystèmes végétaux est influencée directement par la fréquence et l'intensité des averses journalières. Et c'est seulement en incluant cette absorption de l'eau par les feuilles que l'écologue américaine Lauren Lowen est parvenue à modéliser la croissance des forêts des montagnes baignées par les brumes. Bon, cet apport de la rosée pourrait être salutaire durant les périodes de sécheresse et les périodes arides. Mais bon, c'est très difficile à chiffrer. Le botaniste brésilien Rafael Oliveira, je vous aurais fait tous les spécialistes du monde du sujet, estime que la moisson d'eau récoltée par la canopée de la forêt amazonienne alimente 8% de sa croissance. 8% c'est énorme, selon Jérôme Schrill, un néerlandais lui aussi passionné par le sujet, et lui qui se concentre plutôt sur les canopées européennes. À l'échelle de la planète, cela représente des quantités considérables qui échappent totalement au modèle. Ce qui va d'ailleurs un peu compliquer l'équation du changement climatique qui modifie le taux d'humidité et les régimes des précipitations. Mais bref, faut pas hésiter à asperger les feuilles de votre petite plante d'intérieur à la fraîche, comme une petite rosée du matin.
Bon, bah écoutez, on va suivre vos conseils. Merci beaucoup Hervé Poirier. 1,5 degré, le début d'un nouveau monde, c'est la une du numéro d'Epsilon du mois de janvier. On termine avec le répondeur.
Bonjour, Bernard de Cazères. Je vais vous raconter l'histoire d'Abdoulaye, pêcheur sénégalais. Il pêchait la sardinelle sur les côtes sénégalaises. Ça lui permettait de faire vivre sa famille. Puis, ils sont venus de Chine, de gros chalutiers pélagiques. Plus de sardinelles pour Abdoulaye. Un jour, en désespoir, il a pris sa pirogue, il a rejoint les Canaries. Puis de là, la Bretagne. Il est aujourd'hui travailleur immigré dans une entreprise de pêche en Bretagne. Un petit coucou pour Claire Nouvian.
Salut la Terre, c'est Sarah des Pays-Bas. Je réagis à la chronique de Fabienne Loiseau sur le fait que nous sommes submergés par des vêtements, en particulier de mauvaise qualité, venant de Chine, pour ne pas la citer. Je suis pas sûre que la méthode bisou qu'elle mentionne fonctionnera face aux lobbyistes sans vergogne qui viennent d'être embauchés par Chine, à savoir notre ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, une ancienne secrétaire d'État chargée des victimes Nicole Gage et un ancien président de la Fédération française de l'assurance Bernard Schwitz. Face à ces gens-là, face à leur lobbying pour Chine, je sais pas si on va s'en sortir. Bon, désolée, je suis pas très positive ce matin.
Bonjour, c'est Philippe de Billeux dans l'Isère. Juste pour dire, on parle sans cesse, et vous en parlez beaucoup, de la disparition des espèces. Alors, il y a une espèce qui ferait bien de réfléchir à sa prochaine disparition, hein, parce que à force d'exterminer tout ce qu'il y a de vivant autour de nous, et comme on pourra plus vivre sans eux, il serait peut-être temps de commencer à faire prendre conscience à l'humanité que la prochaine victime de son délire, c'est elle.
Bonjour Mathieu, bonjour à toute l'équipe, je suis Madeleine de la Réole. Je viens d'entendre aux infos un monsieur qui glorifiait cette nouvelle médecine connectée qui veut faire de nous des robots. De jour en jour, je suis toujours plus effrayée par ce qu'il se passe. Comme si on n'était pas capable soi-même de se rendre compte si on est fatigué, si on a mal dormi. C'est horrible.
Salut, c'est Bernard du Tarn-et-Garonne. J'appelle parce que vraiment, à chaque fois, je suis hyper intéressé par votre émission. Alors je tenais vraiment à vous remercier, vous et tout l'équipe. J'ai juste un bémol, alors je vais parler de ce bémol. Si votre émission pouvait être moins souvent coupée par des morceaux de musique, ce serait super parce que ailleurs on écoutera de la musique, mais moi ce sont vos textes qui m'intéressent. Alors je dis ça, même si vous le faites pas, c'est pas grave, je vous aimerai quand même. Bien, bonne journée, au revoir.
Eh ben merci Bernard pour la chute de votre message qui nous rassure, d'autant que les disques vont rester. Mais bonne nouvelle, si vous souhaitez écouter les émissions sans musique, eh bien je vous conseille de vous abonner au podcast de La Terre au Carré, puisque les dossiers avec les entretiens de nos invités et les chroniques vous sont proposés sans les disques. Pour vous abonner, vous allez sur l'application Radio France.